9h sur Europe 1. Le journal, Lénaïck Meunier, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. L'été sera-t-il celui de tous les cauchemars pour les vacanciers? Depuis samedi, des passagers de la compagnie tunisaire attendent, bloqués à l'aéroport de Marseille. À Roissy, grosse pagaille aussi. Conséquence de la grève ce week-end et d'un gros couac technique. Des centaines de voyageurs n'ont toujours pas pu récupérer leurs valises. Clément Barguin a rencontré pour Europe 1 des passagers dépités.
Depuis qu'il est rentré des États-Unis vendredi dernier, Christian n'a toujours pas récupéré ses bagages. Bloqué à Paris, ce Vauclusien patiente depuis 4 jours.
Cette deux grosses valises qui avaient toutes mes affaires dedans. C'est plutôt emmerdant. Je fais un séjour à Paris forcé. J'ai dû racheter tout. Heureusement que j'avais mon portefeuille sur moi. J'ai racheté des vêtements, j'ai tout racheté. Quoi. Pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir vivre tous les jours. Quoi. À faire de toilette, tout. Quoi.
Voilà. Au guichet Air France, Oumar aimerait bien savoir comment récupérer la valise de sa sœur partie quelques jours en Espagne.
Là, c'est chaud pour elle parce que surtout les affaires qu'ils ont dedans, les clés de sa voiture et les clés de la maison et tout.
Centaines de bagages sont toujours bloqués, difficile de savoir quand ils pourront être réacheminés. Laurent Daillot est le secrétaire général de la CGT Air France.
Ces bagages, ils sont stockés dans les hangars, dans les sous-sols de Roissy. Certains sont entreposés dans des conteneurs sur le tarmac. Je pense qu'avec l'effectif qu'il y a et le nombre de bagages qu'il y a à réacheminer, ça va être très compliqué. Est-ce qu'ils les retrouveront pendant leurs vacances ou au retour de leurs vacances? C'est une grande question.
Le mouvement de grève des bagagistes, lui, pourrait être reconduit pour les deux prochains week-ends.
Réunion au sommet aujourd'hui autour du pouvoir d'achat pour répondre à cette question. Comment lutter contre l'inflation et faire baisser les prix sans pour autant léser ceux qui nourrissent les Français? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, reçoit aujourd'hui la FNSEA et le syndicat Jeunes Agriculteurs. Autre idée pour ne pas plomber davantage le budget des Français. Ce nouveau coup de pouce pour les automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui roulent à peu près 12 000 km par an. À Bercy, on estime qu'environ 11 millions de foyers peuvent prétendre à cette aide financière. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous cherchiez votre nom sur la liste des reçus au bac? Eh bien ça y est, on y est. Plus de 700 000 lycéens et leurs parents attendent fébriles les résultats depuis 8h et jusqu'à 10h selon les académies. Et puis le Tour de France revient en France aujourd'hui après 3 étapes au Danemark, une journée de repos hier et voici que le peloton reprend la route. 4e étape entre Dunkerque et Calais. Axel May, c'est une épreuve pour les puncheurs.
Oui, après un contre-la-montre et deux étapes arrivées au sprint, les organisateurs de la Grande Boucle ont voulu, pour le retour en France, mettre les punchers à l'honneur, c'est-à-dire ces coureurs explosifs, capables de distancer dans une côte proche de l'arrivée le reste du peloton. Thierry Gouvenou est responsable du tracé.
Oui, ces coureurs punchers, voilà, il y a une dernière côte à 10 km, le cap Blanc-Nez, qui est quand même assez difficile. Et ça peut permettre d'attaquer, de se servir de tremplin. Et pourquoi pas espérer résister jusqu'à l'arrivée.
Sur le papier, cette étape Dunkerque-Calais convenait au Calais de puncher de Julien Alaphilippe. Mais voilà, le double champion du monde, jugé par son équipe insuffisamment remis de sa grosse chute du printemps, est resté à la maison. Le final de l'étape pourrait aussi être rendu compliqué par le vent, prévient le jeune Mathis Nouvel.
J'ai déjà roulé dans ce coin-là. Le vent peut être important aussi. Sur la fin d'étape, si on prend vraiment le bord de mer, ça peut vraiment être dangereux pour les bordures et tout. Donc il peut y avoir des surprises. Ouais.
Ces fameuses bordures, ces cassures faisant exploser le peloton, les organisateurs du Tour espéraient pour le spectacle en avoir au Danemark, mais elles n'ont pas eu lieu, faute de vent favorable.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Le temps, Marlène Duret, c'est une vraie belle journée d'été qui nous attend.
Absolument, du grand soleil pour beaucoup de monde. Quelques nuages qui circulent sans conséquence hein, du côté de la Manche, vraiment à proximité. Et ils prendront la direction des frontières du Nord dans le courant de la journée. Et puis, c'est surtout au pied des Pyrénées que ça va bourgeonner. C'est là le point noir, pour ainsi dire. Pas mal de nuages, une averse isolée sans doute. Quelques orages attendus en fin d'après-midi, plutôt sur la partie est du relief pyrénéen. Et ça peut déborder sur la plaine du Roussillon. Et puis, dernière chose, les vents. Attention aux vents avec la sécheresse et les fortes chaleurs. Attention au risque de feu. 50-60 km à l'heure, bon, bah, ça souffle modérément. Les températures toujours élevées. 34 à 39 degrés du Languedoc-Roussillon à la Provence et à la Corse. Sur le reste du pays, elle reste plus agréable, toujours un peu plus fraîche sur les côtes de la Manche, avec par exemple 21 attendus à Brest, nous aurons 24 à Rennes, 26 à La Rochelle, ainsi qu'à Tarbes, 26 à Nevers aussi, 27 à Paris, Besançon, Tours et Nantes, 29 degrés à Grenoble et Strasbourg, 30 à Agen ou encore à Montauban.
Merci Marlène Duret, prochain rendez-vous avec l'actualité dans une heure, mais tout de suite, Olivier Benkemoun, Culture Média sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Olivier Benkemoun. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Culture Média. Dans une heure, Olivia Ruiz sera notre invitée. La femme chocolat s'est transformée en femme stylo plume. Le deuxième roman de la chanteuse vient de paraître. Il s'appelle Écoute la pluie tomber. Il est question de famille, de prison, de drogue et de torero. Notre info média du jour, quand l'un des plus grands producteurs de télé se lance dans la presse écrite et dans le numérique, ça marche. Stéphane Simon a travaillé dans l'ombre de Thierry Ardisson. Aujourd'hui, il se met en avant aux côtés du philosophe Michel Onfray pour la revue Front Populaire. Pourquoi ce choix ? On lui posera la question. Et puis le journaliste Philippe Collin viendra nous parler de la saison 2 d'une série documentaire sur Arte, d'après une histoire vraie sur le destin d'hommes et de femmes qui ont inspiré le cinéma. Comme chaque jour, vos indispensables, Sébastien Bordenave pour la BD et les romans graphiques, et Stéphanie Loire pour sa sélection de tubes de l'été aux alentours de 10h30. Voilà pour le programme. Culture Média, c'est parti, en direct sur Europe 1 et sur Europe1.fr. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Olivier, je voulais juste souhaiter un très joyeux anniversaire à Philippe Vandel qui fête ses 35 ans et plus aujourd'hui.
Un peu plus, mais qui nous écoute, pas, ça c'est sûr. Au sommaire de votre journal des médias.
En cette fin de saison, forcément, il est beaucoup question de nouveautés pour la rentrée. Aujourd'hui, celle de BFM TV et de France Télévisions. Dans l'actu aujourd'hui, un genre totalement nouveau qui débarque à la télévision, la fiction théâtrale. Je vais vous raconter tout ça. Et puis le succès du documentaire sur Diams au cinéma.
Mais d'abord les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir ?
Ils ont regardé TF1, même en rediffusion, Camping Paradis, ça marche toujours autant, 3 530 000 téléspectateurs, 19,8% de part d'audience hier soir. Deuxième, France 2 avec la série Major Crimes, 2 310 000 téléspectateurs, c'est en hausse hein, par rapport à la dernière diffusion, 12,1% de part d'audience. Et puis troisième, France 3 avec le film RTT, 1 750 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. Vous l'avez remarqué, hein, le podium c'est 1, 2, 3, c'était facile ce matin. À noter que la version belge de Marié au premier regard ne marche pas du tout sur M6. 1 160 000 téléspectateurs seulement pour le lancement hier soir, 6,2% de part d'audience. C'est simple, c'est deux fois moins que pour la version française.
Europe 1, Culture Média.
On commence ce journal des médias avec les quelques nouveautés de la rentrée de France Télévisions.
Oui, alors la conférence de presse du groupe a lieu demain, mais le journal Le Parisien dévoile quelques changements à venir déjà. Il spoil en fait, hein, à commencer par la rentrée de Caroline Roux. Son émission C'est dans l'air se voit rallongée. Elle va reprendre en fait la case d'avant, celle de C'est-à-dire, émission qui s'arrête après 15 ans passés à l'antenne. La journaliste devrait aussi reprendre l'émission politique de France 2 à la place de Léa Salamé. Avec comme conséquence directe, Caroline Roux arrêterait donc son interview matinale les 4V, et c'est Thomas Soto qui la remplacerait tout en conservant la présentation de Télématin. Le Parisien annonce aussi l'arrivée d'une nouvelle émission sur France 5, une émission média. Quelle bonne idée, une heure avec des reportages, des enquêtes et des entretiens en plateau. Ce sera chaque dimanche à la mi-journée. Et puis autre nouveauté, des prime time sur France 3 autour des artisans qui exportent leur savoir-faire dans le monde, les ambassadeurs de l'excellence française. Une soirée aussi pour fêter les 30 ans de France Télévisions en septembre prochain avec un documentaire baptisé La Grande Saga de France Télévisions. Et puis enfin, Le Parisien dévoile les projets de Laurent Ruquier. Il va tester deux émissions en prime time à l'automne prochain. Tout nous fait chanter, où des chanteurs, humoristes ou imitateurs interpréteront des titres en lien avec l'actualité. Et puis une autre création, aujourd'hui comme hier, qui parlera, je cite, de faits culturels ou de sociétés du moment à travers le prisme d'images d'archives. Une émission qui sera coproduite avec Thierry Ardisson.
Nouveauté de rentrée toujours, mais là il s'agit de celle de BFM TV.
Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, a accordé une interview à l'Opinion, une interview dans laquelle il annonce un changement dans la matinale. Alors, pas les présentateurs, non, il s'agit d'un nouveau plateau, plus grand, plus aéré, qui va laisser de la place à la vie, dit Marc-Olivier Fogiel. C'est un gros investissement pour la chaîne, pour BFM TV, hein, à 6 chiffres, dit-il. En soirée, Yves Calvi, lui, gagne une demi-heure. Sa tranche sera donc désormais de 19 à 20h30, suivie par celle d'Aurélie Casse, qui reprend seule les manettes, sans Natacha Polony, de 20h30 à 22h. Et puis, autre annonce, Marc-Olivier Fogiel mise beaucoup sur l'enquête. Il augmente de 60% le budget de Ligne Rouge en 2023. Ligne Rouge, c'est la case long format du lundi soir. La chaîne propose notamment des séries doc, documentaires, mais aussi des reportages, des enquêtes de 26 ou 52 minutes. Il annonce d'ailleurs qu'une équipe est en ce moment en Afghanistan et puis qu'une autre travaille sur une série fiction autour du climat à l'occasion de la prochaine COP. Marc-Olivier Fogiel ne dévoile pas, en revanche, le nom de possibles nouvelles recrues. simplement chercher des chroniqueurs qu'on ne trouve pas partout. Et il veut miser sur des valeurs sûres, notamment Roselyne Bachelot. Mais ça, on le savait déjà, le nom était sorti dans la presse la semaine dernière.
France 2 propose ce soir un programme d'un genre tout à fait nouveau, une fiction théâtrale.
Oui, Amis d'enfance devait être en fait une pièce de théâtre jouée dans une salle, mais le Covid est passé par là. Vous savez, cette petite pandémie, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Il y a eu des effets dans les théâtres.
Le public n'avait plus le droit de venir. De la contrainte est née une toute nouvelle idée, révolutionner la captation théâtrale, c'est-à-dire le fait de filmer une pièce de théâtre. L'équipe a décidé de tourner comme une fiction, dans un décor naturel, dans une maison d'hôte dans le sud. Et pour le co-auteur et co-réalisateur Sam Carman, ça a permis d'avoir une grande liberté.
Au lieu de me cantonner à une scène principale, on va dire la terrasse, ben je pouvais tout d'un coup utiliser la chambre, je pouvais utiliser la cuisine, l'entrée de service, etc., etc. Je pouvais même avoir des plans de drone. Tout d'un coup, cette maison d'hôte, avec toutes ses parties, devenait un décor unique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais comment conserver le théâtre? Et c'est là que l'idée d'avoir les spectateurs dans un théâtre de verdure, sur le jardin, dans des gradins, qui regardaient la façade et le lieu principal qui était cette terrasse, la scène principale, on va dire, du décor. Et cette idée de, quand ils ne pouvaient pas voir l'action en direct, eh bien on projetait sur le mur les scènes.
Et on le voit à l'écran, ce public, il fait en fait totalement partie du décor. On ne retrouve pas le ton caricatural du théâtre, mais dans l'écriture, en revanche, on sent cette écriture théâtrale, on sent que c'est une pièce, les répliques fusent. Les scènes sont longues aussi, mais ça n'a pas été tourné en une seule fois, ce n'est pas un plan séquence, mais plusieurs. Il y a eu quand même 8 jours de tournage, des scènes de jour, d'autres de nuit. C'est vraiment un mix théâtre et fiction. Et pour cela, forcément, il fallait trouver les bons acteurs. Un quatuor composé de Nicolas Briançon, Isabelle Gélinas, Anne Jacquemin et François Vicentelli.
Que des bons.
Que des bons.
C'est parce que ces acteurs-là, ce quatuor-là, était absolument rompu à la fois à l'exercice théâtral et à la fois à l'exercice de la caméra, que cette aventure a pu avoir lieu. Il fallait vraiment des acteurs qui soient très bons, qui aient cette rigueur de travail pendant les 3 semaines de répétition qu'on a eues, pour pouvoir arriver ensuite dans le décor naturel et réinventer de façon, comme devant une caméra, réinventer tout le travail et le restituer avec cette vérité. Et c'est pour ça que, pour moi, une aventure théâtrale dépend énormément de l'équipe d'acteurs qui la joue. Et pour cette aventure, il me fallait cette équipe-là.
Sam Carman, co-auteur de la pièce Amis d'enfance avec Catherine Vinfen et co-réalisateur avec Serge Calfon. Et pour cette première fiction théâtrale, il faut regarder la 2 ce soir à 21h10. Un mot quand même sur le thème de la pièce, je ne vous ai même pas dit. Pour résumer grossièrement, ça illustre comment l'amitié peut résister ou s'effriter avec le temps.
Mais ils ont vraiment travaillé comme du théâtre, c'est-à-dire comme s'ils travaillaient pour
3 semaines de répétition.
Voilà, pour une pièce en continu. Tout On termine fait. Avec le bon bilan pour le documentaire sur l'ex-rappeuse Diams au cinéma.
90 000 entrées en 2 jours seulement. Salam a attiré du monde dans les salles vendredi. Il a même été le film le plus vu au cinéma avec 50 000 entrées devant Top Gun Maverick, bon, qui lui est en salle depuis quelques semaines quand même. Cette programmation au cinéma, c'était une sorte d'avant-première parce que ce documentaire va en fait être diffusé à l'automne sur la plateforme Brutix. Là, il était seulement projeté pendant 2 jours au cinéma. Brutix, c'est la plateforme qui a produit le film. Diams attire décidément les foules. Son interview avec Augustin Trapenard pour Brut cumule 20 millions de vues et celle qu'elle a accordée à 7 à 8 sur TF1 a offert une très belle audience à l'émission avec notamment un record de saison sur la cible commerciale très importante pour la chaîne, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.
On revient sur la principale information que vous nous donniez tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Philippe Vandel qui a tenu à régir.
Et c'est sa voix.
Ah bon, c'était Philippe Vandel, bravo.
Qui nous envoie des petits audios
bon
comme ça à distance.
Bon anniversaire Philippe Vandel. Bon anniversaire aussi à Laurence Ferrari. Merci Louise.
Mais oui, il y a plein de... Et je me demande si Marc-Olivier Fogiel n'est pas né aussi aujourd'hui.
Les infos de votre journal sont à retrouver dans la newsletter.
On connaît tout, même les anniversaires des gens des médias, c'est incroyable.
Toutes vos infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias et des anniversaires.
À demain.
Dans un instant sur Europe 1, l'infomédia du jour, Front Populaire, magazine et médias en ligne de Michel Onfray lance ses universités d'été, un rendez-vous de débat qui se déroulera à Uzès dans le Gard. À ses côtés, le producteur de télé Stéphane Simon, directeur de la publication de la revue. On lui demandera dans un instant comment il a su mettre au service de nouveaux médias son savoir-faire de créateur de contenu à l'ancienne. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
Il y a 2 ans, le producteur de télévision Stéphane Civon lançait avec le philosophe Michel Onfray la revue Front Populaire, publication ayant l'ambition de réunir tous les souverainistes de France, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, pour débattre des questions politiques, économiques et de société. 2 ans plus tard, les 2 cofondateurs de la revue annoncent des universités d'été qui se tiendront en septembre prochain à Uzès, du 2 au 4 septembre précisément. Cette aventure éditoriale et entrepreneuriale arrive alors que pendant des années, Stéphane Civon était resté dans l'ombre des animateurs de télé. Le plus emblématique d'entre eux étant Thierry Ardisson. En plus de la presse écrite, il a également investi les médias numériques. Bonjour Stéphane Civon.
Bonjour Olivier.
Quelques souvenirs, ça.
Oh oui, ouais. 13 ans de ma vie.
C'était le générique de l'émission Salut les Terriens que vous avez produit donc pendant 13 ans sur Canal+, puis pour C8. On vous doit également l'émission Paris Dernière, 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris 1ère et d'autres productions sur le service public. Est-ce que ça ne vous manque pas de produire un talk show hebdomadaire sur une grande chaîne nationale comme l'était Salut les Terriens?
Bah, quand on a fait 80 émissions, évidemment qu'on a toujours une petite nostalgie des années télé, mais je continue à en faire un petit peu, pas assez sûrement. Après, il se trouve que quand même la télévision traverse, vous êtes un observateur attentif des médias, donc vous savez à quel point la télévision traverse une crise de créativité, qui a assez peu de nouveaux formats, je dirais, et puis assez peu de place pour les indépendants. Il y a beaucoup de place pour les gros, beaucoup de place pour les grands groupes qui ont quasiment affermé les différents groupes de télévision. Et donc, les places sont chères.
Crise de créativité, vous entendez quoi par là?
J'entends, il y a crise de la nouveauté. Il y a peu de nouveaux formats qui arrivent. C'est souvent des formats importés du monde anglo-saxon, des formats que les groupes font venir de leurs antennes, à droite ou à gauche, et il se trouve qu'effectivement, il y a assez peu de prise de risque à la télévision, il y a assez peu de gens qui vous disent, bah, écoutez, votre émission, elle est formidable, j'ai envie de l'essayer, on va faire un pilote.
C'est la globalisation de la télévision.
Oui, c'est un peu ça, c'est la mondialisation de la télévision, et il y a un homme formidable qui s'appelle Pascal Joseph, qui depuis des années dit, par exemple, à France Télévisions, il devrait y avoir 1 ou 2% réservés aux nouveaux projets, de 1 ou 2% du chiffre d'affaires développé, mis au développement et à la création de nouveaux formats. Ben, on les attend toujours.
On va parler de front populaire,
ouais.
Média que vous avez lancé avec Michel Onfray. D'abord, précisez ce que c'est, parce que c'est une revue, c'est un média en ligne
C'est un média, d'abord c'était une revue que l'on s'est fixé de lancer pendant le confinement, en 2020. Il se trouve qu'on fait partie de ces gens qui ont dit qu'il fallait donner une tribune à un courant de pensée qui était en train de reprendre des couleurs, qui était le souverainisme. On voit qu'aujourd'hui, la notion de souveraineté est au cœur de l'actualité politique, et il n'y avait pas de médias souverainistes en France, donc on a créé un média de rassemblement des souverainistes de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs, et puis après on s'est rendu compte qu'on avait un tel succès qu'il fallait pas que ce soit simplement trimestriel, mais aussi qu'il y ait un site quotidien avec des contenus tous les jours sur frontpopulaire.fr qui permettrait à chacun, dans l'esprit un peu des ronds-points des gilets jaunes, d'avoir des contributions, des articles d'analyse et des réflexions qui permettent de voir l'actualité autrement.
Alors, créer du contenu, ça c'est le boulot du producteur, mais quand on ouvre la revue en première page, c'est pas Michel Onfray qu'on retrouve, mais c'est Stéphane Civon qui signe l'édito.
Ouais,
c'est
bon. Ça m'arrive, oui. Mais vous savez, j'ai fait 8 ans de presse écrite, on le sait pas, mais avant de faire 20 ans de télévision, j'ai fait 8 ans de presse écrite et je signais déjà dans les journaux des articles, donc c'est pas vraiment une nouveauté pour moi, c'est plutôt un cycle qui se boucle, c'est-à-dire que j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la télévision, je fais maintenant des médias en ligne sur lesquels on retrouve de la vidéo, des débats, mais aussi de l'écrit et puis du print. Voilà.
Oui, et de l'engagement, parce que dans votre édito, vous écrivez ceci. Dans notre précédent numéro consacré à la formation de la désinformation, nous avions alerté sur la dérive de nombreux médias qui ont de plus en plus à voir avec la propagande et de moins en moins avec l'honnêteté journalistique. Leur couverture de la présidentielle a validé nos constats. Qu'est-ce que vous avez constaté?
C'est assez simple. Je pense que oui, effectivement, dans nos métiers, il y a de plus en plus... On ne devrait pas parler d'objectivité, parce que c'est une notion qui est difficile à entendre, mais je crois qu'on doit parler d'honnêteté. Et il y a beaucoup de malhonnêteté dans la manière dont les médias mainstream se présentent aujourd'hui. C'est-à-dire que, en gros, les journalistes décernent des brevets de bien et de mal aux uns et aux autres, alors qu'ils sont non pas sur un statut d'observation, mais sur un strapontin qui est déjà une prise de participation politique. Et donc, ce média, Front Populaire, est un média engagé, vous l'avez dit. C'est un média qui, honnêtement, dit son engagement, c'est-à-dire c'est un média souverainiste, mais au moins on sait d'où on parle.
Parler de médias mainstream, mais privé, public ?
Ah bah privé comme public. Mais alors la dérive des chaînes publiques, elle est spectaculaire. Vous n'êtes pas sans savoir que un de vos concurrents du matin est régulièrement sur la sellette, et parce que c'est l'argent du contribuable et qu'on trouve qu'il est très engagé. Là pour le coup, qu'il roule pour une partie simplement de son auditoire.
À la une du numéro 9 qui est disponible actuellement en kiosque et en librairie, une percutante mort de la démocratie. Vraiment ?
Vous avez quand même vu comme moi que simplement 5 Français sur 10, ce sont un peu moins de 5 Français sur 10 se sont déplacés aux dernières élections, et que finalement on a une majorité relative qui est composée du vote de 1 Français sur 10. Voilà ce que représente le groupe Ensemble à l'Assemblée nationale, c'est l'expression de 1 Français sur 10. On voit bien que ce qui compose une majorité finalement est très faible, et que l'abstention, c'est le fait majeur des dernières élections. Donc on est dans une crise, oui, qui est très préoccupante.
En couverture, on voit une carte d'électeur passée dans une broyeuse à papier. C'est un constat ou un appel ?
Vous savez bien, non, c'est pas du tout un appel, même si Michel Onfray fait partie des abstentionnistes et il le dit. Moi, je ne partage pas cette opinion-là. Il se trouve que, si vous voulez, d'abord, on peut avoir des divergences au sein de ce média.
Il y a du débat,
et c'est sain, le débat. Mais il se trouve que oui, ça, c'est une certitude. Le parti majoritaire en France, on nous dit toute la journée que la France s'est recomposée autour du tripartisme, avec Ensemble, et puis Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Et bien, c'est pas vrai. Le fait majoritaire, c'est l'abstention, et c'est le quatrième gros parti, c'est le parti majoritaire, c'est celui-là, c'est celui des électeurs qui boudent maintenant notre système.
2 ans après le lancement de la revue Front Populaire, quel bilan faites-vous ? Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà changées ?
Alors, d'abord, le premier bilan que l'on fait, c'est que c'est un média que les gens appelaient de leur vœu, puisqu'il a trouvé très rapidement son public. Ça a été un des très gros succès. Vous savez, la presse, c'est une revue intellectuelle. Donc normalement, vous voyez, c'est 5-10 000 copies qui se vendent. Front Populaire est monté jusqu'à 150 000 exemplaires vendus, donc ça veut dire quelque chose. Et puis, nous avons 50 000 personnes qui passent tous les jours sur le site. Donc, c'est effectivement quelque chose d'important dans la vie médiatique.
Alors, il faut préciser ce que c'est, parce que ça s'apparente à un MOOC.
Oui, alors le MOOC, c'est un mot qui est un anglicisme, pardon. Hein. Quand on se dit souverainiste, on ne devrait pas utiliser ce genre de choses. Mais il se trouve qu'un MOOC, c'est une contraction entre magazine et book. Donc, c'est une revue qui est sérieuse et qui est destinée à être gardée. Donc, c'est vraiment un mi-chemin entre le magazine et le livre que l'on garde, parce que l'on veut faire entendre à chacun que quand on prend un exemple de Front Populaire, on peut le consulter, le reconsulter, le lire 6 mois plus tard. On est dégagé des pesanteurs de l'actualité.
Combien de personnes travaillent pour Front Populaire ?
Il y a à peu près, vous savez, c'est difficile à dire parce qu'il y a à la fois des salariés, puis il y a aussi des contributeurs, puisque quand on est trimestriel, il y a à peu près 25 contributeurs sur la revue par numéro, et puis après il y a une équipe, une petite dizaine de personnes qui sont dédiées à la fabrication du site et de la revue.
Quel est le modèle économique ?
On ne vit que du désir de nos abonnés là, et de nos lecteurs. Donc les lecteurs peuvent l'acheter évidemment au kiosque, ils peuvent l'acheter en librairie, mais ils peuvent aussi s'abonner sur notre site. On ne vie sans publicité et sans subvention.
Et le prix de la tonne de papier qui a doublé en un an.
44% d'augmentation, le prix du papier.
Bah on gère comment une crise comme ça,
parce que sans augmentation, parce que pour l'instant, on a la chance d'être en bonne santé, donc on peut compresser un peu nos marges, mais il se trouve que oui, effectivement, il se trouve que ça coûte très cher aujourd'hui de faire des revues.
Alors, dernière petite chose sur votre site, il y a une section cahier de doléances dans laquelle vos lecteurs peuvent déposer leurs idées pour reconstruire la France, parmi lesquelles ne plus sous-traiter la numérisation de la culture française, interdire la spéculation financière de l'eau ou pour un septennat non renouvelable. Ça sert à quoi
Vous savez, il y a la branche la plus active de Front Populaire qui s'appelle France Souveraine, qui est totalement autonome aujourd'hui, les cordons ombilicales a été coupé, qui a édité 270 propositions pour reconstruire la France. Je crois beaucoup au génie du peuple, comme Michel Onfray, c'est-à-dire que les gens peuvent prendre la plume et parler de leur quotidien et comment ils voient les choses évoluer. Et ça fait partie des propositions qu'on pose sur la table.
Et ensuite, ces cahiers de doléances, vous les envoyez à l'Élysée ?
Alors, on les met en open source, c'est-à-dire qu'on donne à chacun la possibilité de puiser dans ce trésor vivant.
Oui, mais à l'Élysée, ils n'iront pas chercher dans open source.
Non, mais l'Élysée, vous remarquez quand même qu'aujourd'hui, le mot souverainisme n'est plus un gros mot. Mmh. Et ça, je crois que la revue Front Populaire a sorti ce mot-là de l'ornière déjà.
Il y a votre revue Front Populaire, mais il n'y a pas que ça. Vous avez lancé d'autres médias, cette fois-ci sur le numérique, et on va en parler. Stéphane Simon, invité de Culture Média sur Europe 1. On revient dans un instant.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Nous sommes toujours en compagnie du producteur de télé Stéphane Simon sur Europe 1. Il s'est lancé il y a 2 ans avec le philosophe Michel Onfray dans la création de la revue souverainiste Front Populaire. On fait le bilan de ce lancement, mais on va parler également de vos autres projets. Vous avez annoncé la tenue d'université d'été à la rentrée. Ça va se passer à Uzès du 2 au 4 septembre. Ça sert à quoi ces universités?
Justement, c'est dans la logique des cahiers de doléances. Que faire à présent quand on est un citoyen engagé, qu'on a envie de ne pas rester les bras ballants face à la situation qui est devenue préoccupante? Eh bien, on va pouvoir s'interroger avec nous sur qu'est-ce qu'on peut faire de la France.
Alors, voilà. Le programme ?
Le programme, ce sont des débats, des ateliers de création, puis évidemment des auteurs de grande qualité. Il y a Boualem Sansal qui va venir, il y a Guillaume Bigot, Christine Kelly, Céline Pilla, Georges Kusmanovic, Jacques Sapir, Régis de Castelnau et bien d'autres qui vont venir débattre avec nous et poser les bases de la reconstruction.
C'est financé comment ? C'est payant ?
Alors, on va dire qu'il y a, comme dans les soirées, il y a ce qu'on appelle une PAF, quoi, une participation aux frais. Voilà. Donc ça coûte 10 euros. Pour 10 euros, vous avez un pass qui va vous permettre d'accéder à tous les événements pendant 3 jours.
Bon, mais il faut aller à Uzès.
Il faut aller à Uzès.
C'est joli, Uzès. Qui attendez-vous dans le public? Est-ce que vous connaissez votre lectorat en réalité?
Écoutez, on a lancé l'événement il y a une grosse semaine. La billetterie est déjà presque pleine, donc il faut se dépêcher de prendre sa place. On attend les gens qui se retroussent les manches, quoi, pas ceux qui se contentent de rêvasser.
Ah oui, mais c'est comme les producteurs de spectacles. Hein. On appelle à remplir au moins 30%, 40% avant le début de l'événement. Hein.
Oui, mais nous on n'est pas inquiets. C'est un petit peu immodeste de dire ça, mais on sait qu'on va être très très plein. Il n'y a que 800 places dans la salle, hein, donc vous savez, ça se remplit vite.
Stéphane Simon, au-delà de la revue Front Populaire, vous avez lancé plusieurs projets sur le numérique, l'univers de la Web TV. Ouais. Parmi ces projets, le média en ligne Néo, que vous aviez lancé avec le journaliste Bernard de la Villardière, média vidéo uniquement visible sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Comment avez-vous réussi à implanter ce média qui fait environ 60 millions de vues par mois?
Alors là, on atteint même 70 millions de vues par mois, ce sont des audiences assez spectaculaires. Ça s'est fait en 18 mois en plus. Je rappelle que c'est un média dont la ligne éditoriale, c'est la valorisation des territoires, c'est l'initiative, c'est la bienveillance en plus. C'est vraiment, on veut faire de ce média la référence, le média des territoires, le média national des territoires. C'est vraiment un média de proximité.
C'est pas le concurrent de Brut ou Combini.
Non, si ce n'est qu'on est sur le même terrain de jeu, mais on n'a pas du tout la même ligne éditoriale. Eux, ils sont dans la globalisation, les nouvelles idéologies, les nouvelles utopies, la décroissance pour certains. Nous, on n'est pas du tout sur cette ligne-là. On est plutôt sur une ligne entre, si vous voulez, France Bleu, France 3, le journal de Jean-Pierre Pernaut. Mais c'est unique parce que c'est avec les codes beaucoup plus innovants du digital. Donc c'est plus moderne, évidemment, que tout ça.
Alors, sur la forme, les contenus de Néo ressemblent à ceux de ses concurrents. Mmh. C'est-à-dire, on retrouve des reportages, des témoignages, des interviews face caméra, comme celle de la professeure de droit Aude Denisot, publiée le 27 juin dernier. Elle lance une alerte sur le niveau d'orthographe de ses étudiants, qui serait au plus mal.
Chaque année, je découvre de nouvelles fautes dans les copies que je n'observais pas auparavant. Je crois que c'est une société qui n'a rien compris au rôle de l'éducation. Et elle court à sa perte. Je suis Aude Denisot, professeure de droit à l'Université du Mans. Et je suis très heureuse d'être sur Néo aujourd'hui pour parler de ces problèmes d'orthographe, de français, et aussi pour essayer de les résoudre. Au niveau universitaire, on se rend compte que le français n'est pas maîtrisé quand on corrige les copies. Il y a des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation.
Alors, une prof qui se plaint du niveau d'orthographe de ses élèves, c'est pas très positif. Vous m'avez dit, on a des témoignages positifs, on a des choses positives.
Vous savez, c'est un média de constat. Hein. Nous, on donne la parole à ceux qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Il se trouve que là, vous avez pris un exemple qui est assez souriant. C'est effectivement, c'est pas nouveau, les profs qui se plaignent des difficultés d'orthographe. Mais d'un autre côté, vous avez vu, comme la France, c'est effondré dans les classements internationaux sur la fabrication de ses élèves et de leur niveau.
Populaire, positif et enraciné, est-ce que c'est un média souverainiste comme
pas
Front
du tout
Populaire?
Alors c'est un média totalement apolitique, vous avez fait bien de faire, si j'ose dire, le seul point commun entre Front Populaire et Néo, c'est que j'y suis, je participe aux deux, mais il se trouve que Néo est totalement apolitique, c'est un média qui est tourné, vraiment qui n'a pas de ligne éditoriale politique, encore une fois, c'est un média de valorisation des territoires, alors que Front Populaire est un média engagé. Et donc ce que l'on cherche, c'est avec beaucoup de bienveillance valoriser les talents des territoires.
Une femme qui est populaire, qui n'est pas toujours positive, mais très enracinée, c'est la directrice du journal Marianne, Natacha Polony, que vous accompagnez également dans la production de vidéos pour les hebdomadaires. Et exemple hier, suite au remaniement, Natacha Polony donne son analyse, face caméra, depuis la rédaction de Marianne.
Eh bien, on y est. Emmanuel Macron est rentré de sa tournée internationale et en l'espace d'un week-end, il a trouvé un gouvernement. Alors, on ne peut pas dire que ce soit flamboyant. On cherche véritablement les nominations qui, tout à coup, pourraient laisser croire que peut-être Emmanuel Macron aurait entendu le message des urnes, qu'il aurait compris qu'il allait falloir s'entendre avec les uns et les autres, modifier légèrement sa politique, son programme, si tant est qu'il y en ait un. Mais non. En fait, rien du tout.
Alors, Natacha Polony publie très régulièrement ses éditos. Mmh. Comment ça se passe concrètement? Elle se filme
Vous savez, Natacha, elle est très autonome. Hein. Ouais. D'abord, c'est la rédaction de Marianne, aujourd'hui, qui fabrique ses propres contenus. Nous, on leur prête aide et assistance. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un héritage. J'avais lancé, il y a 5 ans, Polony.tv, après avoir lancé MichelOnfray.com. Et il se trouve que le journal Marianne a exercé son exclusivité, entre guillemets, sur Natacha, et a tenu à reprendre la main sur Polony.tv, qui est devenue Marianne TV, voilà. Et aujourd'hui, c'est conduit sous la houlette d'un rédacteur en chef qui s'appelle Aaron. Mmh. Et Aaron est le garçon qui dirige ces contenus digitaux que voilà. Nous produisons.
Et on retrouve également sur la chaîne des entretiens, des reportages avec Péricolet
Vulgas, notamment. Bien sûr. Ah ouais. C'est tout ce qui fait le sel de Marianne et qu'on aime bien, hein, de toute façon.
Dernière question, vous êtes toujours en contact avec Thierry Ardisson?
Distant, on va dire. Distant, très distant.
C'est
même.
Un contact distant. Qu'avez-vous pensé de son émission Hôtel du Temps, qui a fait revivre le temps d'une soirée la chanteuse Dalida à ses côtés?
C'est tout ce que j'aime pas quand Thierry est totalement en liberté, c'est-à-dire qu'il fait parfois des choses qui me paraissent pas excellentes, quoi. Voilà. Donc j'ai pas tellement aimé cette émission. Si je pouvais utiliser un joker, d'ailleurs je l'utiliserais maintenant. Pour ne pas dire ce que j'ai vraiment pensé de
cette
histoire.
Parce que vous l'avez dit.
Pas vraiment. Ou à me feutrer.
Bon, merci Stéphane Simon. Le média Néo, on le retrouve sur les réseaux sociaux. C'est tous les réseaux sociaux.
Alors, c'est tous les réseaux sociaux. On est sur 6 réseaux sociaux, mais il y a aussi une plateforme où vous pouvez regarder les 2000 sujets qui ont été déjà fabriqués en 18 mois. Néo.tv.
Et pour Front Populaire, le dernier numéro est disponible en kiosque, en librairie et sur votre site internet. Et les universités d'été, c'est du 2 au 4 septembre prochain à Uzès.
Merci.
Merci Stéphane Simon. Dans un instant, Culture Média revient sur Europe 1 avec le journaliste Philippe Collin. Il vient nous parler de la saison 2 d'une collection de documentaires d'après une histoire vraie sur le destin d'hommes et de femmes qui ont inspiré le cinéma et s'est diffusé sur Arte. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Olivier Benquemoun.
Bonjour Philippe Collin.
Bonjour Olivier.
Vous êtes animateur de radio, producteur, homme de télé, spécialiste de la pop culture et de cinéma. Et vous revenez cet été sur Arte avec la suite d'une collection de documentaires qui ont pour point commun de parler de femmes et d'hommes au destin suffisamment exceptionnel pour avoir inspiré le cinéma. Alors, c'est une idée originale proposée à Arte. La première série avait bien marché.
Absolument, on était très heureux de ce grand succès l'été dernier.
Bon, voilà. L'idée était venue comment?
Eh bien écoutez, on s'est demandé, en regardant l'histoire européenne, s'il n'y avait pas des héros à mettre en exergue pour alimenter peut-être un récit européen. Et on s'est aperçu...
Héros méconnus,
absolument. Et on s'est dit, tiens, depuis la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a des héros, des hommes, des femmes qui n'étaient pas destinés à devenir des personnages extraordinaires, mais au contact de l'histoire, sont devenus des destins extraordinaires. Et on s'est aperçu que le cinéma s'en est souvent emparé. Et donc le point de départ, c'était une fiction qui mettait en scène une histoire vraie, et nous, on allait raconter l'histoire vraie des destins dont on parle.
Format plutôt inédit pour ces documentaires, moins de 30 minutes.
26 minutes, oui. C'est à la fois peu et quand même assez conséquent, puisque c'est tout en images, donc c'est que de l'archive. C'est une plongée dans un univers, dans une époque. Et donc 26 minutes, c'est beaucoup de travail à produire en vérité quand on fait de tout en images.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il faut réunir beaucoup d'archives. Et parfois, quand on veut raconter l'histoire vraie d'un personnage qui n'est pas connu, il faut chercher Olivier, il faut beaucoup fouiller, il faut faire appel à des gens qui ont des fonds privés. Ça prend beaucoup de temps, de travail. Parfois, des gens ont filmé à l'époque sur des petites caméras Super 8. Il faut récupérer ces images. Parce que
vous allez jusqu'à récupérer des documents inédits.
Par exemple, il y a un des films avec Hans Schwerer, qui est un militant, on va dire, anti-nucléaire allemand des années 80. Il se trouve que durant 10 ans, son entourage a tout filmé. Et on a dû chercher ces gens pour qu'ils nous transmettent leurs archives. Et ça donne un film assez troublant parce que c'est une immersion totale dans les images de l'époque.
C'est-à-dire que vous ne contentez pas d'aller prendre ce qu'il y a dans les fonds
absolument. On a des images systématiquement inédites, en vérité.
Bon, toujours la même mécanique, le point de départ, c'est un film.
Oui, c'est un film de fiction, alors parfois très connu, comme Z de Costa Gavras, avec évidemment Yves Montand et Trintignant, pardon. Et puis des films moins connus, comme celui que j'évoquais, consacré à Hans Schwierer. On n'a pas comme objet principal d'avoir un hit en cinéma. On s'est dit, on va trouver plutôt des histoires qui nous intéressent et qui mettent en exergue justement cet imaginaire européen à travers des valeurs communes qu'on partage tous d'ailleurs.
Bon, je vous ai dit, le point de départ c'est un film, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Vous choisissez d'abord le film ou la personnalité ?
Alors on choisit d'abord plutôt la personnalité, en vérité. Voilà. Alors après, il faut trouver un film qui va avec. Vous voyez, c'est tout le problème, c'est tout l'ambiguïté de la recherche, parce que parfois on se dit, bah, tiens, ce personnage-là, il est intéressant, mais il n'y a pas de fiction. Donc c'est une double quête, en fait.
Alors, des personnalités étrangères, des personnalités françaises, bon, des personnalités européennes, c'est équilibré, c'est pour Arte ?
C'est pour Arte, mais surtout, c'est vraiment une dimension européenne. Je dis ça parce que cette série, elle a pour vocation d'essayer de dégager un imaginaire européen. Et c'est important de dire
c'est
ça,
quoi,
Olivier.
L'imaginaire
alors,
européen.
Vous voyez, alors, très simplement, pourquoi aujourd'hui, en Europe, les populistes progressent ? Parce qu'ils ont un récit. Ils ont un récit populiste. Or, il n'y a pas de contre-récit européen. Européen qui irait dans le sens d'un progrès, vous voyez. Or, ça existe. Nous avons des valeurs partagées. Notamment, tous ces personnages, hommes et femmes que nous croisons dans ces 8 épisodes, partagent des valeurs d'aspiration à la liberté, à la justice, à la solidarité. Ça nous définit, Olivier, en tant qu'Européen.
Alors, on va prendre un exemple, celui de Philomena Lee,
oui.
Que vous ne connaissez pas, a priori. Mm-hmm. C'est pourtant l'un des plus grands scandales qui a impliqué l'Église irlandaise et qui continue, et qui a été révélé dans un film de Stephen Frears. Ça raconte quoi ?
Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui, à l'âge de 19 ans, tombe enceinte. Là, on revient sur une thématique du corps des femmes et la maîtrise du corps des femmes, qui tombe enceinte en Irlande et qui va donc être contrainte d'être intégrée dans un couvent où elle va accoucher et elle va devoir abandonner son enfant. En vérité, elle n'a le droit de le voir qu'une heure par jour. Elle est blanchisseuse, avec donc d'autres jeunes femmes qui ont été aussi, elles, cantonnées dans ces couvents. Et il se trouve que ces couvents catholiques vont vendre les enfants, notamment à des familles américaines. Donc toutes ces jeunes femmes vont voir leurs enfants disparaître de leur vie, notamment Philomena Lee, va voir son petit garçon à l'âge de 5 ans vendu à une famille américaine. Et donc c'est l'histoire de cette femme qui va se battre et qui va donc décider 50 ans plus tard d'essayer de retrouver la trace de son fils. Je ne révèle pas la fin parce qu'elle est assez tragique. Évidemment.
Elle est tragique, mais ça a été, c'est une véritable enquête que vous racontez. Mm-hmm. Act Up, la rage de vivre. Ça, c'est l'un des autres épisodes que vous proposez. Act Up, la rage de vivre. Le point de départ, c'est le film de Romain Campillo, 120 battements par minute, grand prix du jury au Festival de Cannes en 2017 avec Adèle Haenel, on s'en souvient, qui montrait le combat de ces militants qui ont voulu faire savoir aux Français ce qu'était le sida, fin des années 80, militants radicaux. On va écouter un extrait du documentaire à Paris, au moment où l'obélix de la Concorde avait été recouvert d'un préservatif géant.
La voilà, la lutte contre le sida.
La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe.
La place de la Concorde devient l'emblème de la lutte contre le sida. Pendant quelques heures seulement, avant que le préservatif géant ne soit retiré sur ordre du gouvernement.
Vous êtes plus prompt à arracher une capote sur l'obélisque qu'à installer... Attendez, vous êtes plus prompt à l'arracher, puisqu'elle a été arrachée, qu'à installer des distributeurs de préservatifs dans les lycées ou des distributeurs de seringues dans les villes.
Je ne peux pas rester, il faut que j'aille avec le ministre, là. Excusez-moi.
Ouais, c'est ça. Allez promener le ministre. Tenez-le bien par la main.
Oh.
Le coup d'éclat d'Act Up fait le tour du monde.
Le coup d'Act Up, on l'a retrouvé effectivement partout. Ça s'est passé le 1er décembre 1993. D'où vient cette archive ?
Alors cette archive, elle appartient à l'INA. Pour le coup, c'était pas très difficile de la retrouver, celle-ci. Mais vous voyez, sur le film d'Act Up, on raconte un collectif. Donc c'est pas forcément un personnage ou un homme ou une femme. En revanche, il y a des personnalités extraordinaires. Clouse Velay, qui était le président d'Act Up entre 92 et 94, qu'on retrouve dans le film, a un destin inouï. Moi, j'ai une grande admiration pour Clouse Velay.
On se retrouve dans un instant, Philippe Collin, producteur de la collection documentaire d'Arte de l'été. D'après une histoire vraie, d'après le destin de femmes et d'hommes qui ont inspiré le cinéma, on parlera notamment de Marinette Pichon. Marinette Pichon, la maman de toutes les footballeuses. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
L'émission de référence sur les médias.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Aujourd'hui, venez découvrir le récit de trois personnages tout nus et pas bronzés.
La toute nue Marie-Louise O'Murphy, dont les fesses que Louis XV a pu admirer en peinture avant d'exiger de les voir en vrai, ont fait tourner la tête. Puis ses fesses, lui aussi, les a montrées John Lennon en une du magazine Rolling Stone.
Et deux stars de la télé, nues et culottées, qui se lancent, nues au début, à la découverte des villages français Nantes et Moutz.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
A tout à l'heure dès 16h sur Europe 1.
Leclerc.
Oh, j'ai trop faim.
Mais il est 4h.
Bah, c'est l'heure du goûter, hein.
Oh, tu goûtes comme les enfants.
En plus, pour l'achat de deux bouteilles de Yop, la troisième est offerte. Et moi, j'adore le Yop.
Allez, ça va, j'ai compris. T'es comme mes ados. Je prends deux Yop pour eux et le troisième, je te l'offre.
Merci, maman.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Du 28 juin au 9 juillet, bouteille de 850 grammes offre découverte. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Peugeot. Et si l'été était le moment de s'offrir une nouvelle voiture? C'est vrai, c'est aussi le moment de se faire plaisir en vacances. Alors avec la gamme 3008, à partir de 390 euros par mois, sans apport et sans condition de reprise, rien ne vous empêche de faire les deux. À vous le design iconique du 3008, thermique ou hybride rechargeable, sans rien sacrifier à votre été.
LLD 49 mois pour 40 000 km jusqu'au 31 août pour un 3008 actif neuf. Réservé aux particuliers si acceptation crédit part. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Info, divertissement, musique, programme, émission, podcast. Retrouvez tous les contenus de votre radio sur votre smartphone avec l'appli Europe 1.
Bitcoin, Ethereum, et si vous achetiez en toute sécurité sur Lightbit, lancez-vous. Essayez Lightbit avec une équipe qui vous accompagne. Avec l'application Lightbit, échangez vos cryptos facilement et en toute sécurité. L'inscription est gratuite, simple et super rapide. Alors, prêt pour la crypto-monnaie ? Rejoignez Lightbit. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, les prix des crypto-actifs étant particulièrement volatiles.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
De retour dans Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Collin. On continue d'évoquer cette collection de documentaires que vous avez imaginée pour Arte, intitulée « D'après une histoire vraie sur le destin d'hommes et de femmes qui ont inspiré le cinéma d'hommes et de femmes européens et européennes ». Tout à l'heure, on a écouté un extrait du documentaire consacré à ACT UP, « ACT UP, la rage de vivre », histoire vraie de ces militants qui a été raconté au cinéma dans 120 battements par minute. Autre documentaire de cette série consacré aux filles de Reims. Qui sont les filles de Reims ?
Les filles de Reims, ce sont les... J'allais dire les pionnières du football féminin français. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il existe un football féminin français dans les années, dans l'entre-deux-guerres. Mais on va dire qu'elles ont fait renaître le football féminin, presque suite à une farce, hein, puisque c'est une kermesse.
Organisée par l'Union de Reims, qui est le journal du coin.
Et donc, on se dit, comme une galéjade, comme une cesse de blague, on va organiser un match de foot avec des filles.
Mais il faut dire ce qu'il y avait eu l'an dernier.
Il y avait eu un match de catch de nains, je crois. Voilà. Donc, vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'en fait...
Non, c'est pour dire le niveau de
la galéjade. Il y a un match de catch de nains, et puis l'année d'après, on se dit, bah, tiens, on va bien se marrer, on va faire un match de foot avec des femmes. Et il se trouve que cette affaire va lancer les filles de Reims, puisque l'affaire va très bien fonctionner et elles vont être à l'origine donc de la création d'un football féminin français avec presque 5 ans plus tard la création d'un championnat et elles vont donc ce qu'on appelle les copettes puisque en hommage à Raymond Coppa qui était le grand attaquant du club de Reims, elles vont donc quand même lancer comment dire une sorte d'aventure du sport français, parce qu'elles vont récupérer la maîtrise de leur corps, hein, en vérité, parce qu'il y a tout un enjeu à ce moment-là du pouvoir qui refuse, la fédération qui refuse que ces femmes-là pratiquent le football.
Alors justement, comment parlait-on à l'époque de ces pionnières du foot ? Vous êtes allé encore une fois rechercher dans les archives, ça faisait débat, et d'ailleurs dans le film, vous allez entendre ceci.
Je crois que c'est un sport assez violent, et... les sports violents doivent être en principe interdits aux femmes.
Il y a quand même une différence de morphologie entre un homme et une femme, je ne vous apprends rien. Bon, la première, c'est les seins. Et je pense que c'est assez dangereux. Et ces demoiselles refusent de se protéger les seins. Les traumatismes du sein, un choc assez violent sur le sein déclenche, amène un hématome. Un hématome dont on ne peut pas affirmer maintenant que ça ne peut pas venir, que ce ne sera pas quelque chose de plus grave dans l'avenir.
le contrôle du corps des femmes par les hommes est un des piliers de la société patriarcale. Si les pionnières du football féminin sont officiellement plus motivées par l'amour du jeu que par des revendications féministes, elles n'en ont pas moins à se battre contre les liens, les stéréotypes et les a priori qui emprisonnent les femmes dans cette France du début des années 70, où il reste tant à faire.
Voilà, c'est la faute des femmes, elles ne veulent pas se protéger les seins.
Vous voyez d'où on part, Olivier, quand même, c'est assez surprenant.
Et aujourd'hui, quand même, je le précise, il y a 200 000 licenciés dans le foot féminin. La première star s'appelait donc Marinette Pichon, elle faisait partie de cette équipe des Copettes. Première joueuse à avoir signé un contrat professionnel avec un club aux États-Unis. En équipe de France, elle a marqué 81 buts entre 1994 et 2007. Et Philippe Collin, sachez qu'un biopic pour le cinéma est actuellement en tournage. C'est ce que révélé ce week-end le journal du dimanche. Et pour l'incarner, c'est une jeune actrice qui s'appelle Garance Marillier, qui a été révélée par Grave, le premier film de la Palme d'Or, Juliette Ducournau. Alors, parmi les autres personnalités que vous mettez en valeur dans votre collection de documentaires pour Arte, Lech Walesa.
Oui, Lech Walesa, grand leader du syndicat Solidarnosc en Pologne, qui est une figure dissidente, évidemment, du bloc soviétique, dont on se souvient tous quand on a plus de 40 ans, et qui donc retrace évidemment l'aventure de ce syndicat libre en Pologne, qui est d'ailleurs le premier coin posé dans le bloc de l'Union soviétique. Et vous voyez, par ce film-là, il est intéressant aussi parce qu'on a réussi à trouver des images inédites à nouveau de l'entourage de Walesa, et qui permet d'être au plus près de ce qui s'est passé et de raconter le début de l'effondrement du bloc de l'Est.
Et toujours à l'origine, il y a un film.
Absolument, de Vajda. Ouais. Voilà.
Vous racontez également l'histoire de Fritz Bauer, chasseur de nazis, procureur, qui s'est battu pour que se tiennent les procès, ce qu'on appelle les procès de Auschwitz, et que l'Allemagne puisse se regarder en face, son passé.
Destin extraordinaire que celui de Fritz Bauer, un jeune procureur juif de l'après-guerre qui considère que la dénazification entreprise par les alliés à Nuremberg n'est pas suffisante, et il a bien raison parce que il reste dans la société ouest-allemande beaucoup d'anciens nazis et Fritz Bauer veut confronter la société allemande à sa mémoire récente, sa mémoire proche, et il va entreprendre un travail de mémoire, alors peut-être, mais aussi un travail quasiment de psyché collective pour que l'Allemagne accepte de regarder ce qui s'est passé et conduise également à des procès. Alors il y aura évidemment le procès de Mengele, Joseph Mengele, qui était donc le médecin arrêté par le Mossad et jugé en Israël, mais sur information donnée par Fritz Bauer, il aurait aimé que Mengele soit jugé en Allemagne. Il sera jugé à Jérusalem en 61, mais en 63, vous l'avez dit Olivier, il y aura donc le procès d'Auschwitz où nous allons assister au procès d'un système concentrationnaire et qui met face à face l'Allemagne à elle-même.
Et voilà. Fritz Bauer est mort dans sa baignoire de façon assez mystérieuse, 1er juillet 68.
Oui, mystérieuse.
Abus somnifères, éliminé, suicidé.
Suicide, on n'en sait rien, à vrai dire.
Hier, la première bande-annonce du film adapté de la vie de Simone Veil par Olivier Dahan a été dévoilée. C'est un personnage qu'on pourrait retrouver dans une future saison.
Oui, tout à fait. Vous voyez, absolument. C'est-à-dire que ce film pourrait donner l'objet d'une des prochaines séries. Voilà.
Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'extraits de films dans cette série. Vous êtes allé chercher des documents inédits. Ce sont des documentaires qui coûtent donc cher.
Oui.
Est-ce qu'il y a des personnages que vous voudriez aborder et qui ne peuvent pas l'être à cause du prix, des droits des films, des archives?
Pour l'instant, on n'a pas croisé ce cas de figure. Maintenant, si on devait élargir le spectre au cinéma américain, par exemple, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Mais pour l'instant, ça a été...
Tant que vous restez européen, ça va.
Pour l'instant, on arrive à gérer le budget. Pour le budget. Mais c'est vrai que si on élargissait à la Paramount, vous voyez, voilà, 20th Century Fox, je pense que ce ne serait pas tout à fait le même prix. Voilà,
voilà, et on le disait tout à l'heure, le format est court, 25 minutes, mais c'est un immense, immense travail de recherche qu'il faut saluer. Il y a 8 films qui sont prévus pour cet été.
Absolument, 8 films tous les dimanches à 17h20, 17h30, ça dépend de la programmation. Et je le répète, voilà, c'est une manière de montrer que nous avons des valeurs partagées en Europe, que nous soyons italiens, allemand, français ou irlandais.
Déjà sur une saison 3 ?
On y réfléchit, 4, on espère. 5, 8, 12, 14.
J'imagine. Voilà. Merci Philippe Collin.
C'est moi qui vous remercie, Olivier.
Et on rappelle que d'après une histoire vraie, votre collection de documentaires est diffusée de manière classique sur Arte le dimanche soir, mais c'est aussi disponible sur la plateforme d'Arte en ligne. Il y a déjà toute la saison 1. Merci Philippe.
Merci à vous, merci beaucoup.
Culture Média sur Europe 1, ça continue après les infos de 10h. Notre invitée sera la chanteuse et romancière Olivia Ruiz pour son nouveau roman Écoute la pluie tomber. Dans Les Indispensables, nous parlerons BD avec Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire vous proposera ses tube de l'été, indispensable tube de l'été évidemment. Et puis nous retrouverons l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe. Europe 1, 10h. Le Flash, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Les derniers résultats viennent de tomber. Les quelques 710 000 candidats au bac sont désormais fixés. Pour ceux qui n'ont pas encore décroché leur diplôme, les rattrapages débutent dès demain jusqu'à vendredi. Les résultats seront affichés en fin d'après-midi sur le lieu même des oraux et consultables le soir même sur Internet. Les débauchages individuels, c'est fini, ça ne sert à rien. Le sentiment du nouveau porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le nouveau gouvernement Borne a été dévoilé hier en préambule de son premier conseil des ministres. Emmanuel Macron a déploré hier le refus des partis de gouvernement de participer à toute forme de coalition. Elisabeth Borne ne se soumettra pas au vote de confiance des députés demain après son discours de politique générale. La France insoumise a déjà prévu de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Le pouvoir d'achat au cœur d'une réunion de travail aujourd'hui à l'Élysée. Tout l'enjeu est de répondre à cette question. Comment lutter contre l'inflation et faire baisser les prix sans pour autant léser ceux qui produisent. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, reçoit la FNSEA et le syndicat Jeunes Agriculteurs. La cour d'assises du Bas-Rhin va rendre son verdict au procès de Jean-Marc Reiser, jugé pour avoir tué Sophie Le Tan. L'accusé a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante, mais il nie toute préméditation. L'avocat général a réclamé la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Aux États-Unis, au moins 6 personnes ont été tuées et 26 autres blessées dans une fusillade hier dans la banlieue de Chicago. C'était lors du défilé du 4 juillet, jour de fête nationale outre-Atlantique. Le tireur, un jeune homme de 22 ans, a été interpellé. Plus de 300 fusillades ont été perpétrées aux États-Unis depuis le début de l'année. Dans l'actualité également, de fortes perturbations sont à prévoir aujourd'hui à la SNCF. Les grévistes veulent obtenir une hausse générale des salaires, compter 2 TER sur 5, 1 intercité sur 3. Les grandes lignes seront moins touchées avec 3 TGV Inouï sur 4 en moyenne et 2 Ouigo sur 3. Un mot du Tour de France. Après une journée de repos hier, les coureurs reprennent la route. 4e étape aujourd'hui entre Dunkerque et Calais. Le tennis s'est terminé pour Alizé Cornet et Harmony Tan, éliminés en 8e de finale à Wimbledon. Il n'y a plus aucun Français sur le gazon londonien. Et puis un Marseillais à Paris, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG pour 2 saisons. Le club parisien doit officialiser son arrivée lors d'une conférence de presse cet après-midi à 14h au Parc des Princes. Avec nous en studio, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Quel est le programme d'Europe Midi ?
Dans Europe Midi, j'aimerais vous entendre sur tous les sujets d'actualité. Déjà, tiens, les résultats du bac, c'est aujourd'hui pour plus de 700 000 élèves. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'organiser ce grand barnum qu'est le baccalauréat ? Est-ce qu'on ne ment pas aux élèves en leur faisant croire qu'ils ont la moyenne ? Vous appelez le 3921 et on en parle. Ça vous fait sourire, Émilie. Hein ? La grève à la SNCF demain, veille des vacances scolaires. Est-ce que c'est le bon moment de faire grève ? Franchement, vous appelez le 3921 également et on en parle dans Europe Midi. Et puis la France a rapatrié aujourd'hui 35 mineurs et 16 mères présents dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie depuis la chute de l'organisation État islamique. Qu'en pensez-vous ? Idem, vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On va en parler ensemble de tous ces sujets. Et puis on en parlera également avec Othmane Nasrou qui est vice-président de la région Île-de-France, porte-parole des Républicains, et Céline Calvez qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Voilà le programme, à tout à l'heure.
Merci Romain, à tout à l'heure.
Europe 1.
10h03 sur Europe 1, la suite de Culture Média, c'est maintenant.
Merci Émilie Dez, on vous retrouve à 11h. À tout à l'heure.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Olivier Benkemoun.
Merci de nous retrouver sur Europe 1 si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début. Vous avez bien raison. Notre invitée, c'est Olivia Ruiz, chanteuse, romancière. La femme chocolat s'est transformée en femme stylo plume. Son deuxième roman s'intitule Écoute la pluie tomber. En réalité, vos personnages n'ont pas.